On attend, et à une période de l'année, ça reprend, rebelote l'année prochaine, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement,
moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Shalom, assalam alaikum, bonjour à Poya, pour faire un clin d'œil à nos auditrices, auditeurs Bassar et Concomba qui nous écoutent sur Radio Daoul à Bassa. Nous pensons également aux auditeurs de Radio Courtoisie à Dapan, à ceux de Radio Sama FM à Baga, Niamtougou, encore à ceux de Radio Centrale FM en Pays Kotokoli à Bassa, ceux de Radio La Paix, la voix des plateaux à Takpamé ne sont pas du reste. Et nous pensons également à nos parents, nos amis auditeurs de radio Lumière à Nero, naturellement la chaîne mère Canal FM, la nouvelle génération. Et nous avons une pensée également à l'endroit de vous, de par le monde entier, en Afrique, en Europe, dans les Amériques, en Asie, un peu partout. Vous qui êtes en connexion avec nous par Radio Gameli, les Bénins plutôt, bien Ebene Radio, la chaîne YouTube, ou toutes autres applications Canal FM. Vous êtes toutes et tous les bienvenus au Club de la Presse de ce jour. Et nous sommes le mardi 19 septembre 2023. Cette émission est réalisée, mise en ligne par Ete Kossi, Thomas Datevi et Gérald Kodjo Akucha. Émission que je co-anime encore avec trois confrères journalistes et deux personnes ressources qui sont à nos côtés. Mais avant de les connaître, partageons cette pensée du jour que j'ai tirée de l'homélie d'un révérend prêtre ce matin. Prêtons bien les oreilles. Eh bien, le prêtre a dit: lorsque la souffrance d'un être vivant ne nous émeut pas, le terme humain ne nous définit plus. Encore une fois, lorsque la souffrance d'un être vivant ne nous émeut pas, le terme humain ne nous définit plus. Et puis au menu aujourd'hui, nous allons parler naturellement art et culture. Nous allons enchaîner avec l'école togolaise et les différents programmes présidentiels par-ci, mais également le concept développé par un jeune togolais avec son équipe qui veulent réaliser des performances allées à l'excellence, notamment dans la promotion du label Togo, Made in Togo. Que faisons-nous pour valoriser le génie togolais? Et c'est de cela que nous allons en parler. Et puis, l'actualité brûlante du moment, je ne sais pas si vous êtes venu me rejoindre ici au Club de la Presse à pied, ou bien si vous avez pu trouver du carburant pour mettre dans vos motos ou dans votre voiture depuis dimanche. C'est le problème numéro 1 nous assaille. Voilà le menu que nous allons développer avec Ambroisine Memede de Savoir News. Bonjour.
Bonjour Sas, bonjour chers confrères, chers invités, bonjour à vous qui nous écoutez. Je vous salue avec joie.
Merci. Quand une femme salue, ce n'est pas les oreilles qui écoutent, mais le cœur. N'est-ce pas Eric Upakoujo?
Bonjour Sas, bonjour chers collègues, bonjour chers invités, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM, c'est la vérité.
C'est la vérité.
Et la femme apporte toujours le sourire dans la maison et un peu partout autour d'elle. Mm-hmm. Et c'est cela qui nous réconforte, nous ne pouvons rien sans la femme à nos côtés.
C'est Dieu qui a fait.
Ouais.
Et Isidore Sassou Akolo, bonjour.
Bonjour Sas, bonjour aux invités, bonjour confrères à la consoeur et bonjour à toutes et à tous.
Les invités qui sont deux, le premier c'est Ghislain Situ Ibokou, bonjour.
Bonjour SAS, bonjour chers auditeurs, bonjour chers journalistes et bonjour à tout le peuple togolais.
Tu es un jeune frère que je connais depuis une dizaine d'années et pour lequel j'ai une certaine admiration avec ton concept Made in Togo.
Évidemment, merci.
Eh bien, courant octobre, tu prépares une sorte d'exposition qui va se dérouler à quelques dizaines de mètres des studios de Canal FM.
Évidemment, nous organisons du 10 au 15 octobre 2023 Made in Togo Expo 2023, qui est une exposition annuelle dédiée à la promotion des produits, services et innovations du Togo.
Made in Togo Expo 2023, c'est du 10 au 15 octobre prochain, à la place Canal Olympia Godopé, quelques dizaines de mètres de nos studios. Alors, à tes côtés, pour nous en parler, ta partenaire, Fanny LT, bonjour.
Bonjour SAS, bonjour aux auditeurs.
Je comprends pourquoi Ghislain, malgré les épreuves, son concept Made in Togo fait du chemin. Mais avant de parler de tout ça...
L'humanisme est en toi.
Et en nous tous. Eh bien, commençons par l'actualité brûlante. C'est cette affaire de pénurie de carburant qui ne dit pas son nom. Ambroisine Memede, j'ai lu l'une de vos dépêches. Vous êtes intéressé à cela. Depuis dimanche, c'est la panne sèche auprès de certaines stations-service. Celles qui ont du carburant, quand vous y allez, il faut développer une patience parce qu'avec des files très longues. L'autre côté, c'est les spéculations. C'est la belle saison des spéculations auprès des trafiquants du carburant boudé. Certains le vendent à 1000 francs le litre, 1200, 1500. J'ai même un ami qui m'a dit qu'il risquait d'avoir une panne sèche hier. Il a dû payer le litre du carburant à 2000 francs CFA.
Ce n'est pas faux.
Ce n'est pas faux. De l'autre côté également, c'est les transports, notamment ceux qui prennent les taxis, ceux qui prennent les taxis moto, sont victimes collatérales de ce phénomène. Eh bien, le ministère du Commerce, de l'artisanat et de la promotion de la consommation a sorti un communiqué hier pour expliquer officiellement que c'était dû à un retard d'approvisionnement. La ministre avait dit que la situation allait se normaliser depuis hier, mais 24 heures après, nous y sommes encore, d'Ambroisine.
Alors, c'est vraiment déplorable qu'on ait pu subir cette pénurie, et selon ce qu'a dit Madame le ministre, c'est dû à un retard de livraison. Nous, ce que nous disons, ça ne peut être que nos analyses, nos supputations. On espère que cela ne cache pas une mauvaise surprise. Parler d'une augmentation qui pourrait vraiment nous surprendre désagréablement. Moi, je suis sur le terrain et la plupart des journalistes, parce qu'il faut rentrer chez soi. Et donc, nous avons tous subi ça. Nous avons observé dans certains, la plupart des stations-service, certaines stations ont arrêté de vendre le carburant alors qu'il y en avait dans leur tank. Et il y a cette spéculation qui a entouré la chose au niveau des points de vente de carburant frelaté. Certains sont allés jusqu'à la frontière pour prendre la frontière, Ghana, pour prendre le carburant qui a flambé d'un coup. Et aujourd'hui, en tout cas, et pour les stations-service que j'ai pu sillonner, et il y a le carburant. Et je pense que c'est en cours de normalisation. J'espère que d'ici là, on va pas encore reprendre avec la même chose. Tout compte fait, on espère vivement qu'il n'y aura pas une augmentation de prix.
Merci. Comme l'écrit également le confrère Le Médium, le gouvernement rassure, mais nous voudrions vraiment nous rassurer que cette situation que nous vivons depuis dimanche ne cache pas une éventuelle augmentation du prix. Et tous les dégâts que nous vivons depuis dimanche, c'est préjudiciable à l'économie. Certains qui ont du mal à bouger. Alors, à qui la faute? pour le confrère Liberté, tout cela c'est une faute lourde. Et le confrère Liberté écrit que les membres du comité sectoriel de fluctuation des prix des produits pétroliers et le coordonnateur en sont responsables. Eric?
Oui, ça, quand on dit que on a remis une patate chaude dans la main de quelqu'un, c'est justement la ministre, la nouvelle ministre du Commerce.
Roskaï Nivedor, épouse Sambiani.
Qui en a reçu pour sa part. Mais ça, vous savez, j'étais en déplacement du pays et dès qu'on m'a dit qu'il y a une pénurie d'essence, je m'étais posé très rapidement une question. Est-ce que c'est pas une augmentation qui est en vue? Mm-hmm. Alors, tout de suite, je suis sorti aller regarder un peu dans les stations service. C'est dans un pays à côté. Et donc, j'ai vu que l'essence est à 860 francs le litre dans ce pays-là.
Alors, disons que c'est Abidjan en Côte d'Ivoire.
Voilà. Alors que le gaz butane, 6,5 kilogramme est à 2000 francs. Mm-hmm. Donc, j'ai fait un peu la comparaison. Je dis, chez nous, c'est à plus de 3000 et quelques. Le gaz, le carburant est à 700 francs. Donc, est-ce que l'on n'est pas en train d'aller vers une augmentation du coût de l'essence chez nous?
Sur la question que tu te posais à Abidjan.
À Abidjan, mm-hmm. avant d'arriver quand même ce matin. Et donc, je crois que il faudrait que le gouvernement essaie de mieux communiquer par rapport à cette situation. Il y a eu beaucoup de spéculations. Depuis là-bas, j'ai appris même que les camionneurs sont en grève et qu'ils mmh. veulent même la tête de leur patron mmh. et tout ça. Mais quand je suis arrivé ce matin, j'ai remarqué qu'il y a quand même de l'essence dans certains dans certaines stations-service, mais il y a des queues. Hein, des queues qui sont vraiment interminables.
Qui débordent largement voilà, sur, dans les rues.
Dans
sur
la rue route. Et tout ça. Et donc, c'est pour dire que par rapport à ce que venait de dire Amboisine, qu'il y a quand même de l'essence, sauf qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que plusieurs stations sont fermées. En arrivant ici, j'ai vu qu'il y a certaines stations qui sont carrément fermées. J'ai vu qu'il y a 2-3 stations totales qui ont encore du carburant et qui en distribuent. Maintenant, quant à ce que dit le confrère Liberté,
oui.
je crois que c'est le lieu pour nous aussi hein, d'aller investiguer un peu pour savoir réellement où se trouve hein, le vrai souci. On peut nous dire que oui, c'est un retard de livraison, mais
c'est le discours du gouvernement.
Mais et quand on sait que le carburant est un produit de nécessité et que c'est pas normal qu'il y ait une situation de ce genre-là, il faut quand même qu'on regarde qui a fauté pour qu'on en soit là.
Alors justement, qui a fauté ailleurs? Quand de telles situations se produisent dans les pays, vous avez un nom, ministre, directeur ou celui-ci, hein, qui porte le chapeau. Mais chez nous ici, on ne saura jamais à qui est due cette faute-là. Nous allons être victimes, nous allons payer le surplus des fluctuations. Et puis si la situation revient à la normale, c'est fini. Le train repartira, Isidore.
Oui, c'est la soirée dans le mal. Et c'est
solidarité gouvernementale.
Dans le mal. Et c'est le talon d'Achille de Fornia Singbe. Il n'arrive pas à taper du poing sur la table pour recadrer les gens. Et quand c'était arrivé, je me suis posé la question de savoir quelle drôle de coïncidence. Il a fallu un remaniement et que le ministre d'alors quitte le poste et on constate une pénurie. Alors qu'on nous a dit qu'il y a deux types de stocks, stock de sécurité et stock d'alerte. Pourquoi ne pas les activer? Ou c'était déjà épuisé? C'est des questions que nous nous posons, mais malheureusement. Et vous savez que c'est un bon bunker là-bas. Vous ne pouvez pas aller au ministère du Commerce pour avoir quelques informations concernant la vérité des prix du carburant. C'est ça le drame au Togo. Il y a quelques mois déjà, mais le prix, c'est à la baissière. Le prix du carburant à l'international, c'est à la baissière. Et je ne vous donne aucune information. Le Togo
L'arc du Togo, c'est la plaque tournante de la vente du carburant.
Au large de nos côtes.
Oui. Que personne ne me dit, que les gens viennent me dire le contraire. Il y a des tankers qui viennent livrer des carburants ici. Les tankers sont à Rads, à Lomé. Quand nous disent que bon, c'est à cause des intempéries, le vent a soufflé, à telle enseigne que les navires n'ont pas pu faire le déplacement. Écoutez, ne nous prenez pas comme des imbéciles.
Merci.
Le minimum de respect pour la population. Bon, qu'à cela ne tienne, on attend de voir. Et ce qui se susurre, c'est que bientôt il y aura une augmentation, non seulement sur le prix du carburant, mais aussi sur le prix de ciment et des gaz et autres là.
Alors, madame la ministre aura compris que son discours hier ne nous rassure pas beaucoup. Nous nous posons encore des questions. Comment se fait-il qu'on puisse nous expliquer que le retard d'un bateau nous cause pénurie ici, alors que nous avons allé un peu à la plage le soir, la nuit, vous allez voir des files de bateaux qui sont en rade là-bas.
Non seulement des bateaux, je vous parle des tankers. Je me défie quiconque, je sais de quoi je parle.
Alors, madame Mivedor, faites l'effort pour nous rassurer courant cette journée.
Suivez-moi,
pour que
regard.
Les gens ne se laissent pas aller à des fluctuations, à des spéculations. Mais déjà, le dégât, hein, avec le surplus que les gens sont obligés de payer dans les transports, des gens qui gardent même leur voiture, qui marchent et qui prennent des immigrants, ce n'est pas bien pour les. Économie.
Même les émigrants,
un peu de sport quand
on
même.
Pourrait lier,
un peu
de sport, mais pas forcé.
Alors,
pourrait...
comme pour paraphraser Valéry Giscard d'Estaing, le Togo n'a pas de pétrole, mais nous pouvons avoir des idées, n'est-ce pas, Ghislain?
Évidemment.
Notamment les idées de promouvoir le label togolais, le Made in Togo. Alors, cette exposition. Que tu organises, toi et tes partenaires, du 10 au 15 octobre prochain, ce sera à Cana Olympia, Godopé, c'est le Made in Togo Expo. Veux-tu nous en parler, notamment les raisons qui te motivent, toi et ton équipe, dans cette organisation?
Merci, Sass.
N'aie pas peur du micro, hein.
Et il faut ouvrir la bouche.
D'accord. C'est pas de l'essence qu'on met dans le micro.
D'accord. Alors, je disais que l'exposition que nous organisons vient répondre à la problématique de la promotion des produits locaux. Nous avons remarqué que malgré les efforts qui se font de part et d'autre depuis plusieurs années, la tendance est toujours déficitaire sur le commerce des biens et des services au Togo. Les populations préfèrent acheter des produits importés au détriment des produits locaux et nous nous sommes dit qu'il faille créer des plateformes de promotion pour d'une part former les entrepreneurs locaux à améliorer leurs produits et aussi inviter, sensibiliser les populations à s'intéresser aux produits développés sur le territoire. Parce que nous n'avons connaissance d'aucun pays où les gens se fient aux importations pour développer le pays. Pour développer une économie, il faut se baser sur les compétences au niveau local. Il faut développer les savoir-faire du terroir. Donc c'est ça qui nous motive véritablement à lancer cette exposition pour améliorer la visibilité des produits locaux.
Donc, amener, les entrepreneurs à améliorer la qualité de leurs produits locaux et également inciter la population à ce que nous soyons les promoteurs de notre production. Alors, quelles sont les cibles que ton organisation vise dans cette expo, dans le Made in Togo Expo? Madame, rappelez-moi le nom.
Faniela.
Oui. Alors, comme cible, nous visons toute la chaîne, notamment les artisans, les producteurs, les transformateurs, les structures d'accompagnement, les structures privées, étatiques, oui, Nous visons tout le monde.
Mm-hmm. Toute la chaîne.
Toute la chaîne.
Depuis la production
jusqu'à la consommation.
Alors, le Made in Togo Expo 2023, du 10 au 15, mais cela tombe en plein dans le mois d'octobre que le gouvernement a décrété depuis comme le mois du consommer local. Alors, qu'est-ce que le Made in Togo Expo va apporter comme plus-value dans le consommer local octobre 2023?
Bien. Alors, il faut reconnaître que depuis 3 ans, effectivement, sous l'impulsion de l'UMOA, l'État togolais a lancé le mois du consommer local pour donner de la visibilité aux produits locaux. Et nous avons compris cela comme un cadre qui est créé. Et maintenant, je pense qu'il revient à chaque Togolais, aux entrepreneurs, de créer du contenu dans ce cadre-là. Donc, nous sommes dans cette logique de créer du contenu pour le mois du consommer local qui arrive et qui commence en octobre. Et cette exposition va apporter de la plus-value en ce sens que elle sera une plateforme d'échange et de communication pour le secteur privé et le secteur public, afin que le gouvernement ou bien les ministères et les acteurs et gouvernementaux identifiés puissent communiquer sur les réformes qui bénéficient aux PMI-PME. Si nous prenons par exemple la charte des PMI-PME, je pense que c'est une très bonne charte où il y a des avantages, mais que beaucoup d'entrepreneurs ne connaissent pas. Donc, il faille un cadre, un panel comme ça pour que les acteurs puissent échanger sur cette charte, par exemple. Ensuite, nous donnons la possibilité à travers des panels et formations aux experts de former les entrepreneurs locaux. Donc, apporter plus de connaissances dans divers domaines, dans toutes les industries, aux entrepreneurs locaux pourrait les préparer à mieux affronter le marché de la Zelicaf, qui est un marché qui s'impose à nous tous, et il faut s'y attendre et pouvoir tirer le meilleur parti de ce marché-là.
Zelicaf, qui est la zone de libre-échange, qui ambitionne de couvrir tout le continent africain, outiller donc les PMI, les petites et moyennes industries, et petites et moyennes entreprises, et même les TPE, même les très petites et moyenne industrie et entreprise à se préparer pour affronter la concurrence du marché qui n'est pas une affaire de garçon de cœur. Alors concrètement, Faniel, au cours du Made in Togo Expo 2023, à quoi est-ce que les exposants, le public qui va arriver, qu'est-ce qu'on va découvrir concrètement auprès des exposants?
Alors, comme le nom l'indique, Expo, dans un premier temps, nous aurons une exposition vente en bonne et due forme, également des services aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Quand nous parlons des produits locaux, il y a également les services qui accompagnent. Mm-hmm. Donc, il y aura des innovations technologiques dans des expositions de ces innovations-là. Nous aurons des panels et formations. Nous aurons des journées culinaires, journées de dégustation. Nous aurons des concerts, jeux tombola et tout ce qui va avec.
Tout ce qui est produit par le génie togolais.
Oui.
Eh bien, Ghislain, pour faire de telles choses, on a besoin de sponsors. Est-ce que vous avez pu trouver de bonnes volontés publiques, parapubliques ou privées qui vous accompagnent?
Alors, je dirais que à ce jour, nous sommes toujours à la recherche de sponsors et de partenaires. Mais il est important pour nous de remercier déjà quelques sponsors, quelques partenaires qui nous accompagnent sur le plan technique, si vous permettez. Je voudrais saluer la FAO et puis le Conseil national du patronat du Togo qui nous accompagne sur le plan technique. Et également une structure qui s'appelle Talent et Spectacle qui nous permet d'acquérir l'espace où nous organisons l'expo à moindre coût. Mais aussi, n'oubliez pas Canal FM qui nous accompagne également et qui nous a toujours d'ailleurs soutenu depuis le début de cette aventure. Donc je tiens à féliciter le DG et toute l'équipe de Canal FM et surtout vous, Monsieur Sass, pour votre disponibilité à notre égard. C'est aussi le lieu pour moi et pour mon équipe d'interpeller effectivement toutes les bonnes volontés qui pourraient nous aider. Je rappelle que ce que nous faisons interpelle tous les Togolais. Et je pense que l'idée aussi, c'est que nous avons l'impression que les gens oublient un peu ce qui nous est arrivé avec Covid. On a l'impression qu'avec la calmie, tout va bien, on avance. Mais moi et mon équipe, on se dit non. On pourrait avoir encore pire. On ne le souhaite pas, mais il faut qu'on se prépare. Donc l'exposition donne aujourd'hui l'opportunité à toutes ces initiatives-là. Vous vous rappelez, quand c'était coincé de toutes parts, les jeunes Togolais ont commencé par développer des initiatives. Aujourd'hui, ces initiatives sont où? Donc je voudrais interpeller chaque Togolais, les gouvernants, les décideurs, à se dire, les initiatives qui ont été portées par ces jeunes-là, il faudrait qu'on fasse un regard pour voir si, parmi ces initiatives, il n'y en a pas qu'on peut regarder, améliorer et porter à échelle. Donc l'Expo aussi a l'ambition de pouvoir mettre ça sur le tapis. C'est pour ça que j'invite les pouvoirs publics à nous accompagner, parce que ce que nous faisons, c'est pour le Togo.
Nous devons rechercher en nous les éléments de non-développement. Il a suffi de la guerre en Ukraine pour que l'Afrique ait faim. Alors que nous avons de grandes étendues de terre, nous avons des productions, le maïs, le mil et consorts, nous avons des terres pour produire le mil et le riz, mais nous avons vu nos chefs d'État africains aller mendier honteusement devant leurs homologues. D'ailleurs, ça ne fait pas la fierté. Et nous avons appris que pour la rentrée prochaine, un pays voisin, le Burkina, a pris des mesures pour que l'uniforme que portent les élèves burkinabés soit taillé dans le tissu face au Danfani. Une façon également de faire la promotion du Made in Burkina. Regardez ailleurs pour copier, c'est pas toujours mauvais, Isidore.
C'est pas du tout mauvais, mais il a touché du doigt un problème, il a fait le diagnostic, je suis resté sur ma soif. Voici les remèdes émaneront de cette expo. Pourquoi nos produits ne sont pas concurrentiels? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Alors qu'on a des produits de très bonne qualité, et il y a beaucoup d'efforts qui ont été menés en termes de conditionnement et d'emballage. Mais pourquoi les Togolais n'arrivent pas à se les acheter? Et je voulais aussi lui poser la question, en quoi ça diffère de la foire Made in Togo? Quelle serait sa particularité? Je ne sais pas si c'est sa structure qui est toujours au niveau de Tocoin, Casablanca, en face du Collège des Plateaux. Alors là, pourquoi votre structure, avant vous exposer des produits aujourd'hui, tel n'est plus le cas, c'est un peu dégarni? À quoi est-ce dû?
Merci Ghislain et Faniel, vous notez les questions. Peut-être que Eric également pour vous un commentaire ou une question. Eric?
Oui, moi je voudrais dire que au fait, j'ai comme l'impression que après le Covid, les Africains n'ont pas encore compris qu'ils ont de la richesse. Regardez de quelle manière nous avons pu tenir pendant ces 2 ans-là de crise sanitaire. Donc pour moi, je dis aujourd'hui, nous devons déjà commencer par capitaliser tout ce que nous avons pu faire pendant le coronavirus. Ma question, je voudrais demander à mon frère s'il est vraiment ambitieux. Parce que quand tu veux faire une telle exposition, je ne sais pas si tu as essayé de quantifier les entreprises existantes pour prendre cet espace-là qui, à mon avis, ne suffirait pas pour que tout le monde puisse venir exposer déjà. Si je me dis, c'est déjà un petit point faible de cette exposition. La deuxième question est de savoir, est-ce que vous pensez que il y a des pistes vraiment d'investissement pour nos entreprises que vous côtoyez ou que vous souhaiteriez venir exposer à votre chose?
Merci Ghislaine et Faniel. 1 minute à chacun pour Ambroisine.
Je salue cette exposition qui se prépare. Et je voudrais vous dire quelque chose. S'il y a des points sur lesquels insister au niveau de nos transformateurs de produits locaux, c'est sur la qualité des produits, la conservation, l'emballage. pour moi, ce sont des points très importants sur lesquels il faut insister. C'est vrai, des efforts sont faits, mais il y a toujours des gens qui se plaignent et lors des expositions et sur les espaces. Et aujourd'hui, on parle de la ZILECAF. Beaucoup, jusque-là, ne maîtrisent pas vraiment
qu'est-ce que c'est.
Il va falloir vraiment faire une large sensibilisation, informer sur la ZILECAF, les retombées pour le pays. Est-ce que je prends une structure ici qui transforme du cacao en chocolat et qui apprend que une industrie veut s'installer au Togo pour faire la même chose? Cette structure étant de petite taille et cette machine qui vient s'installer, quel risque pour le petit transformateur local? Ce sont des points sur lesquels il faut... La ZILECAF est un marché.
Le protectionnisme,
ça, bien sûr, merci si nous n'arrivons pas à protéger ce que nous pouvons.
Laissez le temps à Faniel de ramasser les réponses à vos questions en une minute de chacun. Faniel, tu commences?
Alors,
écoutez la question.
Oui.
Comment rendre les produits togolais plus concurrentiels en termes de prix et puis l'emballage, le conditionnement et tout le reste?
Oui, mais moi je vais plutôt prendre la question d'exposition.
Vas-y.
Oui, il voudrait savoir pourquoi Made in Togo n'expose plus.
Non. En quoi ça diffère de la foire Made in Togo?
Ok, allez-y rapidement.
Bien.
Ok, Gisèle. Okay. Gisèle plutôt.
Je remercie pour cette question-là. L'exposition Made in Togo ne diffère pas de ce qui se fait au CITEF. Je dirais que ça vient en prolongement. Parce que, comme l'a dit, l'a fait remarquer le confrère Eric, si vous remarquez que l'espace de Canal Olympia n'est pas assez grand pour prendre tout le monde, raison de plus qu'on organise des expositions dans chaque commune si possible. C'était ça l'idée. Parce qu'on sait que tous les entrepreneurs ne peuvent pas, sur un délai court, se retrouver dans un seul espace pour exposer. Donc, l'exposition, la foire de CETEF est là, elle est fonctionnelle. Mais il y a une autre exposition aussi qui se délocalise en pleine ville pour essayer de donner un peu plus de vie, parce qu'on remarque que la ville se meurt un peu. Mm-hmm. Donc, on a essayé de raviver un peu sur cette partie-là de la ville aussi, et profiter. Vous savez, quand les gens vont en administration, les fonctionnaires, entre midi et deux, ils peuvent rapidement venir à Canal Olympia faire des courses et repartir. D'accord? Donc, ça donne l'avantage que les gens puissent faire des courses en ville. Mm-hmm. Parce que les gens se plaignent énormément que les expositions ne donnent pas l'occasion aux populations de venir acheter, que c'est plus des occasions de divertissement. Donc, nous voulons donner cette opportunité aux gens de pouvoir faire des emplettes en pleine journée. Ensuite, sur les autres questions, nous avons prévu, par exemple, vous avez évoqué la question d'investissement. Nous avons prévu des panels qui prennent en compte ce volet et qui permettent de mettre en avant le cadre incitatif créé par le gouvernement togolais à l'endroit des investisseurs togolais et étrangers pour évidemment vendre la destination Togo et attirer des investisseurs directs étrangers. Donc des panels prennent en compte ce volet-là. Sur la question de l'emballage et de la qualité des produits, nous avons aussi des experts qui animent des panels et formations pour sur les normes et sur l'importance des normes et des packaging. Donc tout ceci va concourir à améliorer les produits et services.
Je présume proposés. Que les panels offriront l'occasion au plus grand monde d'avoir beaucoup plus de réponses et d'éclairages sur les questions que posent les confrères vous irez également leur poser sur les lieux.
Oui, il n'a pas répondu à certaines de mes préoccupations, surtout. Et est-ce que l'Expo va répondre à la question fondamentale des prix prohibitifs de nos produits? Oui. Et pourquoi votre structure est aussi dégarnie?
Non, peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez plus fait un tour. Vous pouvez passer, je vous invite. Il y a énormément de produits à ce jour. Ensuite, sur la question du prix, je pense que tout le monde est d'accord que il faille faire un travail. Et ça se fait. Maintenant, ce que moi j'invite les gens à faire, c'est que, justement, moi quand on parle aujourd'hui de partenariat public privé, ça me parle énormément. Parce que ça fait depuis 10 ans qu'on en parle dans ce pays, mais on ne voit pas les impacts. Aujourd'hui, si les acteurs s'accordent à travailler ensemble, si le public s'accorde effectivement à travailler avec le privé, nous pourrons travailler sur des stratégies qui pourront faire en sorte que dans une stratégie globale, on puisse faire baisser les prix. Et ça, je pense qu'on ne pourra pas en débattre ici, oui. Mais nous sommes ouverts à
c'est
ce que...
C'est une volonté politique avant tout.
Justement, et je pense que nous sommes ouverts aussi à pouvoir travailler avec toutes les parties.
C'est déjà bien de poser les questions, de nous interpeller mutuellement, chacun à sa place, fait sa part pour que nos produits soient de meilleure qualité, également plus concurrentiels sur les marchés, et que nous également, par une sorte de patriotisme économique, que nous privilégions les produits locaux par rapport à d'autres. Le Made in Togo, c'est également les produits culturels, ce que nous produisent nos hommes de culture, dont Kossi Efoui, même s'il vit en France, il reste togolais. Et Eric Johnson, ton journal nous apprend que Kossi Efoui a écrit dernièrement une pièce de théâtre intitulée Isis Antigone, ou la tragédie des corps dispersés. La pièce a été déjà jouée par 2 fois au Togo. Maintenant, c'est une mise en scène de Gaëtan Nousouglo et Marcel Jondo qui sera jouée les 27 et 28 septembre prochains au Festival des Francophonies à Limoges en France.
Oui, effectivement. Je ne sais pas. Cette pièce, écrite par... notre frère et ami Kossi Efoui, qui n'est plus à présenter par rapport à tout ce qu'il fait sur le plan littéraire, et sera représenté, sera joué à ce festival des francophonies de Limoges qui se tient les 27 et 28 septembre prochains. Et donc c'est une pièce qui parle d'un groupe théâtral qui s'est disloqué. Par quelle alchimie, personne n'a compris, mais où il y a eu beaucoup de décès, beaucoup de tragédies. Et comme vous savez, Kossi Efoui, c'est un dramaturge. Et donc, comment expliquer cela? Mais il y a quand même quelqu'un au sein de cette troupe théâtrale qui a voulu raccorder les morceaux pour dire non, il ne faudrait pas laisser cette troupe là qui a joué sur plusieurs scènes africaines, européennes, asiatiques, etc. En l'air comme ça, il faut que tout le monde revienne. Et donc quand il a essayé, vraiment c'était un peu difficile parce qu'il y a des décès, des trucs qu'il faut revoir, en quelque sorte des mythes. C'est pour ça qu'il parle d'Isis Antigone, qui ont été dans les temps anciens, Isis et Antigone dans les temps égyptiens, là, comme on l'a appris par l'histoire, de véritables mythes. Et donc, cette pièce-là va représenter en quelque sorte notre pays à ce festival.
C'est un spectacle entre fiction et réalité, un fascinant jeu de cœur et de corps, l'histoire qui convoque la mémoire, les mythes, le présent pour exorciser l'avenir, des jeux qui s'appuient sur contes, mimes, masques, marionnettes, chants, musique et danse, et le tout créant un théâtre qui souffle, un théâtre de souffle qui s'adapte à tous les espaces, même vite. Je ne fais que citer l'article de l'Union. Alors, de ce spectacle de Kossi Efoui, passons à ce qui va se dérouler incessamment au palais de Lomé. L'Union l'écrit, Savoir News aussi y a consacré une dépêche en Brésil. Il s'agit de cette exposition de 160...
Qui a déjà commencé.
Qui a déjà commencé avec...
Depuis le 15, hein.
Oui. Oui, 160 œuvres qui
166.
Sont... 166. Il y a plus de 160 œuvres exposées. Voilà. Mm-hmm. Des vidéos, photos, sculptures, tableaux, peinture, portrait, etc. Il s'agit essentiellement d'accompagner les artistes dans le processus de création et mettre en lumière leur travail, mettre en lumière à travers leur travail l'Afrique, au-delà également de l'Afrique, vendre le continent, mettre la lumière sur le continent. Il est intitulé « Dig where you stand » ou « De l'autre côté de l'océan ». Alors, c'est au palais de Lomé que ça se passe. Et plusieurs pays sont impliqués, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Congo, la Côte d'Ivoire et bien sûr notre pays, le Togo. Sont prévues des expositions, déjà l'exposition est en cours. Il y aura des conférences, des jeux, des spectacles, des cours également, des contes, marionnettes, théâtre. Et l'exposition sera en itinérance en octobre dans quelques quartiers de la ville.
Ah, donc l'exposition va sortir même du palais de Lomé pour te transporter dans les quartiers.
Aller dans les quartiers à la rencontre des populations. Et voilà, c'est quelque chose d'ouvert, accessible, où nous invitons tout le monde à y participer. Pour le prix, ce n'est pas grand-chose, c'est accessible également.
Accessible. Eh bien, le quartier, notre quartier, Sabato, nous sommes déjà demandeurs à recevoir cette exposition. C'est de la commune Golf 7.
Oui, et pour ajouter, il faut dire que l'exposition a déjà commencé au Ghana, et aujourd'hui, c'est au Togo. Après, ça ira au Bénin, au Nigeria,
et même au Sénégal. Alors Isidore, voilà le palais de Lomé qui retrouve vie, qui nous invite dans son jardin, ce grand parc, pour aller découvrir cette exposition.
Ah, il faut le faire. Moi, je reste nostalgique des Festac.
Festival.
Oui, des arts nègres qui avaient commencé au Sénégal. Et la toute dernière... le tout dernier festival, la toute dernière édition, c'était au Nigeria en 60, j'oublie un peu l'année, où les Fela, Ranson Kuti ont fait leur prestation. Beaucoup de gens sont venus. Donc moi, je vivement que on puisse encore redonner du goût au Festac, au lieu que ce soit des festivals et itinérant, et du Ghana au Togo et aller voilà.
En attendant de redonner vie à ton festival,
il faut redonner vie.
De petits festivals ici et là.
Oui, il faut rêver grand.
Oui,
il faut rêver gros aussi. C'est très important.
Ghislain, on t'a déjà reproché, on t'a déjà invité à rêver plus grand, et Isidore nous le rappelle aussi. Merci, il est 11h43, je rappelle que sous le coup de 12h, les auditeurs pourront se transformer en co-animateurs et appeler pour faire des commentaires, voire nous poser des questions. Et nous continuons avec le sujet, l'effectivité des droits des enfants. Eric,
oui.
L'Union nous rappelle que il y a quelques jours, le gouvernement est passé à la 94e session du comité des droits de l'enfant qui s'est tenue donc à Genève. Et le Togo, représenté par la ministre Jovile Onlonyo Apedo Anakoma, en charge de l'action sociale, de la promotion de la femme, a fait l'état des lieux.
L'alphabétisation.
Merci. A fait l'état des lieux sur les droits des enfants ici au Togo. Tout y est passé, la santé, l'éducation et bien d'autres sujets.
L'enregistrement universel de naissance, parce que on se rappelle qu'on a toujours reproché à notre gouvernement de n'avoir pas mis assez pour que tous les enfants qui naissent soient automatiquement enregistrés. D'où Madame Haro parlait des enfants qui n'ont pas de naissance, j'oublie un peu les termes.
L'ancienne ministre Suzanne Haro.
Oui, Suzanne Haro. Des apatrides. Et elle essayait de lutter contre cette apatridie-là à sa manière. Et également, ça a fait que certaines bonnes volontés ont organisé des enregistrements forains dans plusieurs localités de notre pays. Et donc, la ministre a exposé ce que l'État togolais est en train de faire aujourd'hui pour que, de facto, chaque enfant qui naît sur le territoire togolais soit automatiquement enregistré. C'est vrai qu'il y a la NIDS qui a été créée hein, pour l'enregistrement
biométrique.
Oui,
c'est,
biométrique.
C'est un peu différent.
Non, non, c'est dans ce cadre-là. Elle l'a expliqué, elle a dit que désormais, tout enfant qui naît va avoir un fichier. Et donc, voilà à peu près. Et donc, au-delà de cela, elle a parlé aussi de la santé, où il y a plusieurs programmes et projets en faveur des mères et des enfants, et comme le programme élargi de vaccination, par exemple, qui vaccine automatiquement tout enfant qui naît au Togo. Au-delà, elle a parlé aussi de l'éducation, où il y a également ce projet d'éducation pour les enfants. D'abord, c'était les cours primaires où l'enseignement est devenu gratuit pour les cours primaires, maternelles et primaires. Et après, maintenant, ça a été prolongé vers le secondaire.
Ça, c'est jusqu'en terminale, voilà. Maintenant, pour les écoles publiques.
Publiques, il faut bien préciser, parce que on ne peut pas parler des gens qui ne sont pas en difficulté, c'est surtout des gens qui sont vulnérables. Mm-hmm. Et donc, au-delà de tout ça, mais il faut remarquer que les organisations de la société civile ont aussi participé à cet événement à Genève. Mm-hmm. Et donc, elles ont répondu en disant que oui, c'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de tests qui ont été votés par l'Assemblée nationale pour protéger les enfants dans leurs droits, sauf que il y a ces tests-là, mais il n'y a pas les décrets d'application. Mm-hmm. Cela manque énormément, et donc les tests sont là, mais toutes les ONG aussi, les organisations de la société civile ne connaissent pas ces tests-là pour pouvoir les appliquer. Mm-hmm. Et donc ces OSC demandent directement au gouvernement de faire en sorte que les gens, enfin que ces tests-là soient vulgarisés et que les gens connaissent ces tests-là afin que leur application soit plus facile. Et donc, elles sont allées un peu plus loin en indiquant quand même au gouvernement de faire mieux par rapport à ce qui se passe aujourd'hui.
Merci.
J'aimerais qu'on puisse lever cet équivoque-là. Et l'opération que mène ANID ou que va mener ANID, qui consiste à faire des enregistrements biométriques, permet aux individus, même vous qui avons des cartes d'identité, de pouvoir avoir une identité biométrique nous permet de faire des opérations. Oui. Mais cette opération ne te permet pas d'avoir une carte d'identité. C'est ça la nuance qu'il faut vite lever pour que les gens ne pensent pas que en s'identifiant de façon biométrique, vous avez droit à la carte d'identité ou au passeport, ni au certificat de naissance.
Dans ce sens-là, le gouvernement devra communiquer
abondamment
pour lever tout équivoque.
Ici, quand on est enregistré, là, on a dit très bien que l'enregistrement, c'est tout individu qui vit sur le territoire togolais. Mm-hmm. Ça veut dire que tu sois étranger ou autochtone, tu es automatiquement enregistré. Mm-hmm. Tu as un numéro unique qui t'identifie.
Voilà.
À partir de ce moment, si tu n'es pas togolais, on peut le savoir. Mais si tu es togolais, on le sait déjà. Ça te donne déjà des droits. Ça veut dire qu'on est en train de mettre fin à cette situation d'apatridie. Voilà ce que ça veut dire. On ne dit pas que si tu as, parce que la carte, quand tu es enregistré, tu vas avoir une carte biométrique qui te permet
une identité biométrique. Pas une carte biométrique,
une identité biométrique
qui te permet de faire des opérations bancaires, de faire tous les actes
civils.
Je ne maîtrise pas toutes les nuances là. Émission, quitte à avoir les experts du gouvernement,
vous pouvez même dire que le directeur
des zones d'ombre,
parce que j'ai bien posé la question lors du lancement,
clair sur le sujet.
J'ai posé la question lors du lancement.
Oui, je dis, moi, je ne maîtrise pas toutes les nuances. Souffrez qu'on reporte ça à une autre émission, avec un expert pour mieux nous éclairer. Eh bien, je reviens donc à madame qui était à Genève, qui a parlé de tout ce que le gouvernement fait pour.
Je vais te lire exactement ce que la ministre a dit. L'adoption en septembre 2020 de la loi relative à l'identification biométrique au Togo est une mesure qui permettra d'attribuer à toute personne physique togolaise ou résidant au Togo un numéro d'identification unique. Grâce à ce mécanisme d'identification fiable et sûr, l'État peut s'assurer de l'efficacité des projets programmes destinés à une population cible ou encore mettre en place de nouveaux services sociaux comme la couverture maladie universelle, le registre social unique et la digitalisation de l'état civil, par exemple.
Merci. Mais le débat continue, nous y reviendrons. Oui. Mais elle a également parlé de la loi portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel, beaucoup de choses. Mais il y a une réalité ici au Togo qui a la vie du, c'est l'excision. La loi a beau pénaliser ce système, mais dans d'autres coins du territoire, ça se pratique encore. La preuve, Ambroisine, Savoir News a approché le professeur Bagilane Douagibé, qui vous a accordé une interview bien intéressante sur le phénomène de l'excision au Togo.
Oui, il faut dire que le professeur Douagibé est enseignant à l'université. Il est le chef service de l'unité gynécologie obstétrique. Et il a tout dit sur l'excision. Qu'est-ce qu'on coupe concrètement? Quelle est l'étendue des dégâts? Est-ce qu'on peut réparer? Est-ce qu'il y a un lien entre l'excision et la circoncision? Au Togo, cette pratique est concentrée dans la région septentrionale. Et le taux de prévalence avoisine 9%, voire 11% dans Tchaoudjo, 4% dans la région de l'Akara. Et ce chiffre nous est donné par le Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles au Togo.
Tchaoudjo, c'est central.
Donc l'excision continue à être pratiquée ici au Togo.
Au Togo. Mm-hmm. Et ce que nous a dit le professeur Bagilane, c'est qu'il y en a plusieurs sortes, jusqu'à 4 types d'excision. Moi, je n'en savais rien. Et qu'on pouvait perdre la petite fille et, suite à ces pratiques. Et donc, je vous invite à lire cette interview-là pour vous faire une opinion sur cette pratique néfaste qui porte vraiment atteinte à la santé, à la vie sexuelle et reproductive de nos filles, de nos femmes. Un de ses patients était arrivé en consultation, il venait de se marier avec son épouse pour des difficultés relationnelles, on peut parler des relations intimes. Et ce qu'il a détecté, c'est que la dame a été excisée quand elle était en bas âge. Et ça fait que l'homme ne pouvait pas avoir de relations sexuelles avec sa femme parce que l'orifice a été réduit. Ça a été réduit complètement et qui empêchait toute forme de pénétration. Le gars n'a pas vraiment insisté. Et c'est à la consultation, après le mariage, qu'ils ont constaté ça. Et à la consultation que lui, il a pu faire ce diagnostic-là. Quand une femme est cisée, une des conséquences, à l'accouchement, quand l'accouchement est d'abord difficile et quand l'enfant sort, il y a parfois des déchirures. Et c'est difficilement gérable pour maîtriser cette hémorragie. C'est difficile. Voilà quelques deux conséquences de l'excision. Donc, c'est une pratique vraiment à combattre. Et il a dit qu'aucune religion ne prescrit cela.
Amen.
Quand une culture a des inconvénients qui affectent la vie, cette culture-là, on peut changer cette culture. Donc, merci. Je vous invite
Je plains ce couple, surtout mon frère, qui a bâti une maison où il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de porte d'entrée. finalement, il a fait pour aider,
voilà,
pour aider
ce couple-là. Il y a la chirurgie qui intervient pour réparer. Il peut réparer, mais le naturel prend un coup.
Donc, c'est ce qui a été fait. Espérons que ce message arrive juste dans les villages, parce que je présume que c'est pas le Meizi,
c'est au je vous l'ai dit,
mais c'est dans les villages encore
dans la reculés. Région, dans Tchaoudjo, nous sommes à 9%, voire 11%, et 4% dans la région de la Kara. Et je profite pour inviter nos confrères et aussi les radios communautaires, nos différents. Vous avez aussi votre audience. Nous avons notre canal à son audience. Et donc, à s'investir dans ce domaine-là, à communiquer, à donner l'information, à montrer ce qui ne va pas avec les scisions pour que les comportements changent.
Moi, je pense à, oui, à mon humble avis. Hein. Et on a identifié là où le phénomène est très
récurrent, à sévir.
Oui. Et ça a trait à certaines religions. Ne soyons pas choqués de le dire, c'est la religion musulmane. On ne peut pas faire ces pratiques dans beaucoup d'autres religions. Donc, s'il y a des gens à associer, je crois que les leaders religieux, les leaders communautaires, c'est à eux, c'est vers eux qu'on doit aller pour faire la sensibilisation.
Beaucoup de choses sont faites quand même avec le ZIAF.
Les imams dans les mosquées font des enseignements pour expliquer.
Puisqu'il a été démontré que la religion n'a jamais prévu ces choses, ce sont pas des préceptes même de la religion musulmane. Mais pourquoi ça a la peau dure, la vie dure là-bas?
Ça, oui, Eric? Non, ce n'est pas seulement dans les communautés musulmanes qu'on retrouve ça. Il y a aussi les animistes qui pratiquent ça. Et dans une région au Bénin, il y a eu, un conflit entre deux communautés parce qu'il y a un garçon qui allait prendre une fille de l'autre communauté et le monsieur a constaté que dès qu'il se couche tout le lit est mouillé et c'est la conséquence de l'excision. Alors le monsieur ne pouvant pas, ne connaissant pas et il n'a même pas amené sa femme à l'hôpital a demandé le divorce et l'autre communauté n'était pas d'accord, mais c'est un cadre du milieu qui a demandé, mais amène-la à l'hôpital pour savoir de quoi elle souffre. Et ce n'est qu'après qu'on a compris que c'est suite à son excision qu'elle a eu une incontinence urinaire, une fistule. Et donc, ça a généré tout un conflit entre deux communautés. Hein, mais les gens se sont bagarrés, mais la réalité était en face. Voilà,
c'est un problématique que nos cultures ne sont pas figées dans le temps.
Voilà.
Si nous nous rendons compte qu'un aspect de notre culture ne nous arrange pas, nous sommes quand même des êtres évolutifs.
On peut décider de nous en débarrasser. Moi, je salue ce que fait la CIAP. J'ai discuté avec Mme Napoué et qui m'a dit qu'aujourd'hui, il y a encore de ces points-là où la pratique est encore têtue. Pour certaines personnes, exciser une fille permet d'avoir une femme qui est une femme fidèle au foyer. Mais en questionnant docteur Bagilam sur la même question, en lui posant la même question, il dit, mais quand les relations sexuelles, la recherche du plaisir peut amener la fille ou l'homme à aller voir ailleurs.
Ailleurs, partout.
Quand vous enlevez l'organe de comment dire, l'organe de jouissance. Quand on fait une circoncision, selon ce qu'il m'a dit, on enlève le prépuce, on n'enlève pas le gland. Au niveau de la femme, l'incision, un type d'incision enlève le clitoris et son prépuce.
Oh là là.
On enlève la couverture et l'organe de plaisir. Alors, cette femme-là, pensez-vous qu'elle ne sera pas en quête de ce plaisir? C'est des situations qui dépassent l'être humain. Donc, il a dit que ce n'est pas possible. Quand on fait la circoncision, ça empêche, par exemple, les infections. Ça a un avantage aussi bien pour l'homme, la personne est circoncise, que pour sa compagne. Mais l'incision n'a pas d'avantage, rien que des
inconvénients.
Il y a quelque chose aussi que je voudrais dire, c'est que au niveau des frontières, il y a ces personnes-là qui fuient, qui vont dans un pays pour échapper à la législation de son pays pour aller pratiquer et ainsi de suite. Donc ça va être une action concertée.
Il est 12h, on n'a pas le temps d'en débattre, mais comme la rentrée c'est dans quelques jours, je vais rapidement la revue de presse sur le sujet. Le confrère Le Médium qui écrit: que le gouvernement déjà paré pour la nouvelle année avec l'entrée des élèves en classe. À partir de lundi prochain, déjà le personnel d'encadrement, les enseignants, l'administration ont déjà fait leur rentrée depuis hier. Vision d'Afrique s'y intéresse lui aussi, écrit à la page 7. Orientation de la rentrée scolaire 2023-2024, un ancrage plus poussé de l'école de la République, le médium, plutôt l'Union, qui consacre deux articles. D'abord, ce que nous disions hier, savoir l'anglais sera enseigné au cours préparatoire dès cette rentrée à partir du 25 septembre, mais ce sera dans des écoles pilotes. C'est après qu'on va évaluer et généraliser. Et l'autre article, c'est quand l'Union écrit que la nouvelle rentrée s'annonce sous de bons auspices. Alors, l'article contient des informations très positives, notamment le recrutement d'enseignants, recrutement d'enseignants, la formation des surveillants qui vont se voir attribuer autre charge, autre que la surveillance, et puis également des manuels et guides dans le domaine de la citoyenneté, des bâtiments qui seront construits encore ici et là. Rapidement.
Oui, mais évidemment, si on se réfère à ce qui s'est passé l'année scolaire dernière, on se dit que là où il n'y a pas eu de grève, etc., c'est que quelque part le ministère en charge de l'enseignement primaire et secondaire a quand même fait un bon travail. Nous demandons tout juste que ce travail là continue. Quand on nous annonce par exemple qu'il y aura 4105 enseignants qui seront recrutés, on dit bravo, parce que il y a un manque d'enseignants dans plusieurs écoles. On nous dit qu'il y aura de nouveaux manuels, surtout sur le plan de l'éducation civique, on dit bravo à tout ça. Et ce qui est encore très important, c'est le fonctionnement des périmètres pédagogiques. Ça, si on avait encore le temps, on allait en parler là.
Ouais, vous aviez pris le temps pour parler d'autres sujets entièrement. J'avais pas réussi à vous arrêter. Ce sera pour une prochaine fois. Il est 12h, pas de 3 minutes. Nos auditeurs qui s'impatientent. Thomas, pause et puis clin d'œil et nous renouons avec les auditeurs.
Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous avons parlé de notre page culture avec Kossi Efui, le palais de Lomé, mais nous sommes revenus sur la pénurie de carburant avec la demande que Madame Mivedo nous rassure vraiment que la situation va revenir rapidement à la normale. Nous avons également parlé de le Made in Togo Expo 2023, ce sera du 10 au 15 octobre prochain. Nous avons parlé également de la situation des droits effectifs de l'enfant au Togo, tel que le gouvernement y travaille et ce que les ONG souhaitent pour l'amélioration. Et puis on a terminé avec ce phénomène qui a la vie due, l'excision qui ne fait que des dégâts. Et puis on a évoqué rapidement la rentrée scolaire 2023-2024 et ce que le gouvernement nous prépare. À présent, la parole est à vous. Rassurez-vous, Ghislain et Fanny, elles sont à nos côtés, tout comme Ambroisine, Eric et Isidore. Premier auditeur.
Oui, bonjour, monsieur Sass.
Bonjour.
C'est Abdoul.
Notre ami Abdoul.
Oui.
Nous vous écoutons, Abdoul.
Ok. Je voulais faire savoir à monsieur Isidore que j'aime beaucoup que l'islam ne permet pas ce genre de choses. Comme lui-même il a constaté, on a dit c'est la région de Tchaoudio. Même dans la région de Tchaoudio, c'est pas tout le monde qui fait ça. C'est ceux qui ont un pied dans l'islam et un pied dehors. Ceux qui n'ont pas voulu laisser leur pratique ancestrale. Ceux qui sont en train de faire ça. Sinon, l'islam a interdit ça. On nous a dit dans le Coran de copier le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed n'a pas fait ce genre de pratique. Moi, je suis de Mango. On ne fait pas ça. Nous, on ne connaît pas ça.
Merci
même quand
beaucoup.
Les gens prennent le couteau pour se couper un peu partout là, c'est interdit dans l'islam. Ce sont des pratiques sataniques. Donc, merci.
En somme, comme le professeur l'a dit, aucune religion ne prescrit le phénomène d'excision.
Oui.
Merci beaucoup, Abdoul. Merci beaucoup, Abdoul.
Ambroisine. Voilà Abdoul qui rejoint ce que le professeur vous a confié dans son interview.
Merci beaucoup Abdoul.
Merci. Merci. Deuxième auditeur. Allô? Ok. Je rappelle tous ces sujets dont nous avons débattu. La rentrée scolaire avec... Ok, un auditeur qui entre en ligne. Bonjour.
Allô, bonjour.
Oui. Et si...
Rentrée scolaire, oui, et si...
Rentrée scolaire.
Rentrée scolaire. Vous avez parlé de rentrée scolaire.
Oui.
Et le ministre avait fermé 300 écoles, non? Avait fermé 300 écoles.
Pour défaut de pour défaut de conformité aux normes.
Conformité. Et oui. Nos écoles publiques, là, elles sont conformes. Elles sont construites depuis avant l'indépendance, non? Elles
bon, sont, pas toutes ici.
Ces écoles-là sont conformes.
Bon,
elles sont dans des états vétustes. Hein.
Mm-hmm.
Hein? Allez dans les écoles publiques, vous allez voir ce que c'est. Pour qu'on nous ferme les écoles encore dans ce pays. Et puis, vous avez parlé de l'essence. Vous avez vu tout ce désordre-là? C'est parce qu'on refuse d'alterner. Il faut alterner périodiquement tous les 5 ans dans tous les pays. Il n'y aurait pas ce genre de problème là.
Merci beaucoup. Merci.
Pénurie et tout ça.
Merci beaucoup.
Voilà.
Oui, merci.
On ne va pas peiner tant que ça.
Merci beaucoup, Essi.
Tout serait fluide. Merci.
Je vous en prie, Essi. Bon appétit à vous. Mais vous continuez tout à nous écouter. L'auditeur qui entre en ligne, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Monsieur Nyamava.
Monsieur Nyamava, oui.
Oui. Oh, le pétrole. Vraiment, c'est du calvaire.
Mm-hmm.
Hier, il a fallu que je rentre à taux de 22 heures avant d'aller m'aligner. J'ai eu ma part quand même, hier. Et vous savez, dans la queue là, vous savez très bien que les émigamans, c'est des maîtrisards. Ils connaissent. Au cours des débats, ils disent que bon, il y a pétrole gate. On ne dit rien. Mais on persécute
les journalistes.
Et vous voyez. Il expliquait que bon, comment c'est comme si quelqu'un me vend la drogue. Je lui paie avec un faux billet. Qui va convoquer l'autre? On a tous ri là-bas. Ça dit que c'est comme ça. Il nous a dit que c'est comme ça fonctionne le gouvernement. Et tout le monde a acclamé. Ça dit on a tout on a compris sa leçon.
Monsieur Nyamava, nous l'avons dit aussi, hein, ailleurs, puisque le monde est ouvert, quand de tels cas se produisent, ces gouvernements recherchent les coupables et les sanctionnent. Mais chez nous ici, il y a eu Petrole Gate, il y a eu telle affaire, les mêmes personnes mises en cause sont toujours restées en poste.
Alors, voilà, c'est pourquoi j'ai partagé avec vous ce que disaient les Emidiamans.
Oui,
là.
Ils ont raison.
Oui. C'est comme si tu me vends la drogue, je te fais faux billet. Qui va convoquer l'autre? C'est juste pour partager ça avec vous, quoi. Je vous remercie.
Je vous en prie, l'ami Nyamava. J'espère que vous avez fait le plein hier. Ah, il est parti. Mais un autre auditeur qui entre en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour, Sassegal.
Oui.
Je me nomme Benoît, je vous appelle Dagoué.
Ah. Vous avez. Ok, allez-y, Benoît.
Bon, on dit. Les paroles ont besoin des actes pour être concrets.
Mm-hmm.
Mais les actes n'ont pas forcément des paroles pour être concrets. Je fais allusion de leadership du chef de l'État. Merci. Ça concerne l'essence, quoi.
Mm-hmm.
Merci. Bonne journée.
Je vous en prie. Je vous en prie. Benoît Dagoué qui rejoint maintenant notre ami Gado qui parle en parabole. Que ceux qui ont des oreilles ont écouté. Un autre auditeur qui entre en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour mon patron.
Oui, Patrick. Oui,
comment vous allez ce matin?
Ah, nous rendons grâce à Dieu.
D'accord. Alors, je veux comprendre, est-ce qu'il y a une sanction ou bien une amende réservée à ceux qui font cette pratique-là, les sessions-là, pour les jeunes filles-là? Est-ce que le professeur lui a parlé de ça à celui ou à celle qui allait pour l'interview-là?
Mm-hmm. Je voudrais
qu'on comprenne. Ça, c'est un. Deux. Bon, et ça n'engage que moi seul, M. Sass, comme l'autre auditeur vient de parler de quelque chose là.
Mm-hmm.
Bon, je vous pose aussi autre chose à part le pétrole gate là. Est-ce qu'il n'y a pas une politique sale derrière cette histoire de punir à surtout les motos électriques? Ce n'est pas une politique pour que beaucoup de gens aillent, c'est-à-dire dans ce domaine, pour aller acheter cette moto là? Bon, ça reste à savoir. Merci.
Oui, dans des cas comme ça, chacun, il va de ses imaginations, de ses supputations, pourquoi pas. Mais Ambroisine, je crois qu'au Togo, il y a quand même une loi qui est censée punir l'excision.
Bien sûr, nous en avons discuté avec le procureur de la République sur ces questions-là. Il y a une interview en cours pour aborder la question sur le plan juridique, ce qu'encourt les acteurs sur le plan juridique.
Aussi bien les dames qui excisent que les parents qui amènent leurs enfants pour
les facilitateurs, tout. J'étais dans le bureau du procureur, nous en avons discuté, le protocole a été envoyé et je pense que d'ici là, on aura tous les contours et sans tabou, sans embâge du procureur.
Vivement que cette interview vienne nous éclairer. Ceux qui ne savaient pas, ils seront désormais. Un auditeur en ligne, bonjour.
Pardon.
Oui.
Allô, pardon.
Oui.
Je suis encore pour 2 minutes.
Ok, allez-y.
D'accord. Maintenant que j'y ai, quoi. J'y suis plutôt. Mm-hmm. Et où est-ce qu'on nous commande le fioul, là? Où est-ce qu'on nous commande ça? C'est en Russie ou au Nigeria, où ça se prend au large du Togo? Puisque le golfe de Guinée, le golfe de défense, le golfe de Guinée, là, ça regorge de l'essence, non? La dernière fois, il y a un an, je pense, la Côte d'Ivoire nous a dit qu'ils en ont encore trouvé des puits de pétrole chez eux.
Ouais.
Et même Tshisekedi l'a dit là-bas. Et ici, on n'a pas de pétrole pour qu'on puisse l'acheter à 250 francs le litre.
Bon, officiellement, puisque la question revient souvent.
La dernière fois que j'ai eu un ministre
de l'énergie, il avait dit que le Togo ne produit pas encore de pétrole.
Le Togo est en eau profonde en plus.
Merci beaucoup. Merci. Mais officiellement, le Togo ne produit pas encore de pétrole et nous l'achetons sur le marché international. Mais dans quel circuit, moi je ne maîtrise pas encore. Un autre auditeur? Oui, allô, bonjour l'ami en ligne. Allô? Il n'a pas le retour peut-être? Oui, dernier auditeur aujourd'hui, bonjour. C'est l'essence qui manque dans le téléphone ou bien quoi? Oui, bonjour.
Oui, bonjour, ça c'est enfin.
Ah, Didier.
Bonjour, comment ça va?
Ah, ça va chez nous ici.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Eric, bonjour.
Bonjour, bonjour. Didier, tu vas bien?
Oui, Eric.
Oui,
oui bonjour.
Oui, oui, Eric a répondu.
Oui, bonjour. Oui, moi, je voulais parler d'abord de l'exposition, là. Je pense que les gens de l'exposition doivent beaucoup mettre l'accent sur la qualité, la traçabilité, puis la sincérité des produits. Moi, je vais bien payer un chocolat Magnitogo, mais il faut comme... Quand je prends chocolat Magnitogo, si c'est 75% de chocolat.
Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Allô? Allô, Didier? Nous l'avons perdu, malheureusement. Mais Ghislain et Faniel, vous avez quand même écouté un peu le début de sa préoccupation. Alors, qu'avez-vous à lui dire pour le rassurer?
Allô?
Didier, tu es de retour?
Je suis là.
Ok, oui,
Ok. Je vais bien. Mm. Quand moi je peins un chocolat, que je sois sûr que c'est 75% de chocolat, que je peins une tomate, qu'on me dit que c'est du bio, faut que je sois sûr que c'est du bio. Mm-hmm. Faut que vous insistez beaucoup sur la traçabilité. Et pour que l'État aussi, qu'il prenne certains produits par le maïs. Le parti peut dire que je subventionne le maïs, mais que le maïs ne doit pas exporter ni importer. Que le surplus des cultivateurs soit payé par l'État, soit obligatoire payé par l'État. Mais je voulais aussi revenir sur le problème du pétrole. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons parlé de la communication du gouvernement. La dernière semaine passée, vous nous avez parlé des gros diplômes de notre ministre de la nouvelle ministre de l'Éducation, de ce diplôme de communication UIL, de McGill, de Harvard et de tout là, dont je ne sais pas, de Sorbonne là. Mais jusqu'à présent, on n'a pas entendu par le gouvernement. Il faut qu'il nous dise ce qui se passe au juste. C'est à elle d'aller chercher l'information. C'est pas ça aide d'imposer sa communication sur la commission du gouvernement. C'est pas le gouvernement qui lui donne des communications. Si elle trouve que ce que le gouvernement, elle ne peut pas imprimer ça, elle a qu'à démissionner. C'est comme ça qu'on pour sa dignité. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a même pas encore prononcé sauf la milice. C'est pas normal. Et c'est, moi, quand il y a deux seuls, et ils prennent quelque chose déjà. Je vous remercie, monsieur.
Je vous en prie, Didier, mais le communiqué du ministère du Commerce, c'était au nom du gouvernement hier. Ok, Fanny et Giselin.
Allô?
Oui.
Ah, vous avez réussi à m'avoir.
Ah, c'est commis.
Merci beaucoup.
Oui, allez-y rapidement, s'il vous plaît.
Rapidement, je viens sur l'argument que madame la ministre nous sert au niveau des justificatifs. Pour moi, c'est un argument qui ne tient pas.
Mm-hmm.
Parce que on doit nous montrer quand est-ce qu'on a vidé notre stock d'alerte d'abord pour la commande et à quel niveau, dans quel mois aussi, on a vidé notre stock de sécurité et de telle enseigne que la commande trimestrielle est partie complètement dans le pays. C'est ça.
Mm-hmm.
La seconde préoccupation, c'est par rapport à l'enrichissement biométrique. C'est ça, non?
Oui.
Voilà. Moi, je le place sous le gaspillage. Parce que nous avons déjà 117 communes. Et ceux à qui on veut faire ces enregistrements biométriques n'ont pas d'acte de naissance. Donc, si on veut réellement aider les Togolais, c'est de doter ces 117 communes-là de matériel et de financement pour que ces mairies se cherchent à donner de l'acte de naissance qui va arriver jusqu'au passeport. Et on utilise ces éléments, carte d'identité et le passeport, pour formaliser une carte biométrique si une banque ou bien une structure internationale veut le faire.
Mm-hmm.
Si on ne le passe pas comme ça, c'est l'impunité que nous dénonçons qui est au niveau du CSFPP, qu'ils sont en train de nous mentir. Ça va encore revenir.
Merci. Juste pour comme pour notre mémoire, la ministre a dit qu'aujourd'hui, le taux d'enregistrement des nouvelles naissances est de 87%. Hein? C'est-à-dire qu'une très grande partie des enfants nés au Togo sont enregistrés. Maintenant, ceux qui ont raté cela, c'est à leur endroit que de temps en temps, on fait des opérations foraines. Mais c'est quand même un besoin qu'on puisse avoir, que tous les Togolais puissent avoir un acte de naissance, une pièce d'identité et avoir des facilités pour avoir le passeport. Préoccupation partagée. Maintenant, préoccupation exprimée à vous, Faliel et Giselin.
Alors, merci, Issas. La préoccupation de l'auditeur est pertinente et je pense que effectivement, c'est une préoccupation partagée. Je l'avais dit tout à l'heure, la qualité est fondamentale pour le consommateur.
Mmh.
Et vous savez, même les producteurs, les transformateurs sont eux aussi des consommateurs. Puisque si je transforme de la tomate, il faut que j'achète des épices ailleurs. Donc, je ne peux pas tout fabriquer. Donc, les mêmes promoteurs sont en même temps des consommateurs. Donc, mmh. ils ont conscience que leurs produits doivent être des produits de qualité et ils y travaillent. Nous les accompagnons dans ce sens. Et c'est justement pour ça que nous prévoyons des panels et des formations sur tout ce qui va concourir à la qualité du produit et qui se trouve dans les normes et les packagings qui font partie des éléments de qualité de traçabilité. Ensuite, je voudrais rappeler que l'État aussi fait des efforts. Depuis un moment, je pense que les laboratoires de l'ITRA et de l'INH ont été renforcés pour pouvoir analyser les produits et assurer leur qualité pour le bien du consommateur. Donc, c'est ensemble que nous allons œuvrer pour améliorer la qualité des produits et les là où nous voulons. Et donc, c'est pour ça que nous devons rappeler à chaque Togolais que c'est en achetant le produit que vous estimez aujourd'hui qui n'est pas de très bonne qualité que le promoteur pourra avoir les moyens pour l'améliorer. Si à chaque fois vous dites que le produit n'est pas de bonne qualité et que vous le délaissez complètement, je pense que ça sera difficile et ça va prendre plus de temps à ce promoteur-là d'arriver à la qualité que vous désirez. C'est pour ça que j'interpelle toutes les parties et je dis que c'est un combat que nous devons tous mener et que chacun doit y mettre du sien.
Et ajouter que quand nous achetons un produit made in Togo, c'est également du travail que nous offrons à des compatriotes parce que ceux qui transforment nos produits ici offrent du travail, font de la plus-value ils pourront payer également leurs taxes et impôts à l'OTR et tout le monde.
Ça, c'est par rapport
rapidement,
par rapport à ce que Didier a dit sur la traçabilité, et je pense que c'est la création d'un label. Par exemple, pour faire votre exposition, il nous faut un label pour déclarer certains produits propres, bio, tout ce que vous voulez. C'est juste ce que je voulais.
Alors, tu as la parole, ajouter. Tu la gardes pour une minute.
Alors, ce que je voudrais dire, c'est que cette expo, à mon avis, concerne essentiellement les jeunes entrepreneurs. Parce que c'est eux qui arrivent sur le marché et c'est eux qui doivent promouvoir ce qu'ils produisent. Et comme cela, il y a beaucoup de programmes présidentiels et gouvernementaux qui sont dédiés à eux. Je pense qu'il faudrait juste qu'ils y aillent pour voir comment performer dans tout ce qu'ils produisent. Je crois que ce sera mon mot de fin.
Et maintenant, la parole est à Isidore pour son mot de fin aussi.
Non, vivement saluer l'initiative et encourager ceux qui sont dans ce domaine et inviter l'État à les soutenir parce que partout la production locale a pris de l'ampleur, c'est l'État qui vient en appoint, mais on ne le sent pas. Et qui est des fonds d'investissement et à un taux raisonnable. Aujourd'hui, nos banques sont à un taux usurier, 12%.
12,5%.
Comment vous pouvez rentrer dans votre fonds d'investissement? Voilà. Avant, on avait. Vous avez encore traduit de nostalgique. Comment appelle-t-on l'autre là? CNCA, c'est dans le crédit national.
Caisse nationale. Caisse nationale de crédit agricole.
Ça a disparu de temps de donuts. Mais qu'est-ce que l'État attend pour...
C'était la mauvaise gestion.
La mauvaise gestion, mais
à la disparition de la CNCA.
Il faut encore réinventer ces choses-là, sinon.
Merci. Brésil, une minute.
Eh bien, moi, je salue cette exposition. C'est une initiative à saluer. Moi, je invite tout le monde à aller visiter. Si nous ne consommons pas nos produits, qui va les consommer? Quand vous mettez à acheter du riz importé, vous permettez aux exportateurs de rajouter de renflouer leur caisse. Mais quand vous achetez du riz de Corvier par exemple, vous permettez aux cultivateurs locaux de se redresser un peu, d'avoir moins mal au dos, de s'acheter des outils, de renforcer et son travail pour vous offrir un meilleur riz. Et je pense que c'est ce que nous devons tous faire.
Merci Faniel.
Oui, merci à tous. Alors, vous avez déjà tout dit, je vais juste lancer un appel à tous ceux qui font dans le local de nous approcher. Nous avons encore des stands qui peuvent prendre à moindre coût. Les numéros sont 91 96 77 77 97 51 51 52. Également, je vais annoncer que demain nous avons une conférence de presse au Conseil national du patronat du Togo à 9h. Donc nous lançons également un appel à tous les médias, journalistes qui veulent bien soutenir cette initiative, de nous contacter pour que nous puissions échanger.
Merci, merci. Alors, un exercice que je nous invite tous à faire. Quand nous irons au marché aujourd'hui ou demain, pour les fournitures scolaires, pour l'alimentation, pour notre habillement, est-ce que nous faisons l'effort de regarder qu'est-ce qui est écrit sur ces produits? Made in où? Combien de produits made in Togo sont exposés dans nos marchés? Aussi bien l'alimentation, l'habillement, les fournitures, tout.
Et les services aussi.
Quel est le pourcentage du produit made in Togo dans nos marchés, Gisèle?
Je ne saurais malheureusement répondre, mais je voudrais vous rassurer que vous venez de tirer quelque chose de la programmation de l'expo. C'est que nous avons prévu comme innovation une journée de consommation citoyenne. Ça veut dire que ce jour-là, c'est à l'ouverture officielle le 11 octobre. Nous allons inviter les officiels à acheter des produits locaux. Chaque Togolais, ce jour-là, devrait acheter un produit local et le prouver. Donc nous voudrons bien que toute la population
nous soit informée. Nous serons là pour être témoins de ce fait. C'est fini pour aujourd'hui. Le programme La Presse, oui, il est déjà. Vous voyez la montre. On se retrouve demain à 11h avec d'autres confrères. Quant à vous, dans quelques jours, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.
Merci.
Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.